Franca.
Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous, je m'appelle Stécie et je suis en 301 au Collège Aragon. Avec mes camarades de 301 et 306, nous voulions vous présenter le travail fait en mathématiques sur notre pays, portrait de femme. Tout d'abord, Héloïse et Lucille se sont posé la question si les maths étaient plus accessibles aux hommes qu'aux femmes. Puis Anthony, Grégoire, Lucie, Valentin, Axel, Noémie, Quentin, Arthur et Vincent, élèves de 301 et 306, parleront des mathématiciennes étudiées en classe qui nous ont permis de montrer l'évolution des femmes en mathématiques. Je laisse donc la parole à Lucille et Héloïse.
Lucille et moi, on se posait une question, les mathématiques ont-elles un sexe ?
On a déjà tous entendu dire que les garçons avaient plus d'attitude en mathématiques et les filles en français, et on se demandait donc si c'était bien vrai.
Aujourd'hui, on va donc répondre à cette question.
Si on fait quelques recherches, on se rend vite compte que de nombreuses études ont été réalisées et qu'elles parviennent toutes au même résultat.
Et quels sont donc ces résultats ?
Eh bien, selon une étude américaine, par exemple, les hommes sont 3 à 4 fois plus présents que les femmes chez les génies mathématiques.
Oui, mais d'après les psychologues, ces tests démontrent la performance et non l'intérêt. Les hommes ne sont donc pas meilleurs que les femmes.
C'est vrai. Pourtant, on peut voir que cette matière suscite plus d'intérêt chez les hommes. En France, par exemple, la filière S regroupe 41% des garçons et 28% des filles, alors que la filière L concentre 17% des filles et seulement 5% des garçons.
Peut-être, mais comme tu l'as dit, c'est une preuve d'intérêt et non d'aptitude. D'ailleurs, de nombreuses études sont d'accord pour dire que garçons et filles ont les mêmes capacités mathématiques.
Alors, pourquoi les filles sont-elles moins présentes que les hommes dans le monde des mathématiques ?
D'après Larry Summer, un ancien directeur de l'université d'Harvard, cette différence s'expliquerait par un phénomène biologique naturel.
Ouais, cette déclaration a provoqué de nombreux débats. D'ailleurs, des femmes ont fait des recherches afin de prouver le contraire.
C'est le cas d'Elizabeth Spelk, une spécialiste américaine de la psychologie comportementale. Elle est professeure de psychologie à l'université d'Harvard. En 2005, elle montre que les acquis modifient le cerveau et que les aptitudes des filles et des garçons sont identiques. Par exemple, à l'âge de 6 mois, les deux sexes commencent à reconnaître les quantités et à se repérer dans l'espace. À presque 3 ans, ils apprennent à compter. Et entre 6 et 10 ans, tous les enfants, donc les filles et les garçons confondus, apprennent à combiner géométrie et numérisation.
C'est aussi le cas de Janet Hyde, une professeure de psychologie et des études de la femme à l'université de Madison, dans le Wisconsin. D'après son étude, le seul avantage que les garçons auraient en mathématiques serait la résolution de problèmes complexes au lycée, et elle le qualifie donc de négligeable.
Nous avons donc la preuve que les deux sexes sont sur un pied d'égalité au niveau cérébral. Pourtant, les femmes sont discriminées et c'est plutôt ça qui les découragerait à poursuivre leurs études dans les mathématiques.
En effet, dès le CP, les filles ont une représentation négative des maths. Rien qu'à l'idée de devoir utiliser leurs connaissances en mathématiques, elles sont déstabilisées. En fait, inconsciemment, elles ont peur de se confronter aux stéréotypes véhiculés par la société.
Évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les filles, mais il est vrai que la majorité en souffre. Il est vrai que l'idée que les filles soient meilleures dans les matières littéraires et les garçons soient plus à l'aise dans le domaine scientifique reste très ancrée dans les esprits, notamment ceux de certains professeurs et parents.
Alors, comment changer les mentalités et permettre aux filles d'avoir plus confiance en leurs capacités mathématiques ?
On sait que grâce à des recherches, que petits, les garçons ils ont tendance à jouer à des jeux de construction ou à des jeux collectifs qui faciliteraient leurs aptitudes à se repérer dans l'espace. Quant aux filles, elles se voient offrir des poupées, elles jouent à la maman, à la marchande, ce qui développerait le langage. Si les jeux étaient plus mixtes, donc les enfants, les filles et les garçons confondus, obtiendraient les mêmes acquis et aucun sexe ne serait avantagé sur telle ou telle discipline.
Toujours d'après des études, il semblerait qu'une partie de nos goûts et de nos choix relèverait de notre éducation. Alors, si les enfants voyaient leurs parents se partager les tâches ménagères, se compléter et même faire celles qui ne sont pas les leurs d'habitude, ça les inciterait à plus sortir de leur zone de confort et ils verraient que la distribution des rôles n'est pas fatale. Dans notre cas, les filles ne s'arrêteraient pas aux préjugés concernant les mathématiques.
Donc en conclusion, si les différences entre les hommes et les femmes étaient d'ordre biologique, on les apercevrait partout. Or, c'est pas le cas et le niveau des mathématiques des filles a beaucoup progressé, sûrement parce que peu à peu, elles se libèrent des préjugés.
Alors, si les filles apprennent dès leur plus jeune âge qu'elles peuvent faire des mathématiques, qu'elles peuvent avoir un métier en lien avec les maths ou n'importe quelle discipline scientifique, tout le monde pourrait voir que les mathématiques n'ont pas de sexe.
Thank you.
retrouver toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Très peu de femmes peuvent contribuer aux mathématiques jusqu'au XXe siècle. Les études poussées ne leur étaient pas accessibles. Il n'était pas de bon ton pour une femme d'étudier les mathématiques. Pourtant, quelques-unes se battirent contre les institutions et persévèrent dans leurs études. Souvent, elles étaient opposées à leur famille pour apprendre les mathématiques. Certaines durent prendre de fausses identités et travailler dans l'isolement intellectuel. Ces femmes influencèrent significativement le cours des mathématiques. Elles modifièrent la perception du monde sur le rôle intellectuel des femmes, et voici quelques-unes.
Tout d'abord, parlons d'Hypatie. Née entre 355 et 370, est une des rares mathématiciennes et philosophes grecques d'Alexandrie. C'est la première femme scientifique dont on a des traces. Elle est la fille du mathématicien Théon d'Alexandrie, que l'éduque en initiant aux mathématiques et à la philosophie.
À partir de l'an 400, elle commence à enseigner la philosophie et les mathématiques à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, d'où elle prend la direction. Elle est reconnue et adultée malheureusement. Aucun de ses travaux ne nous est parvenu à cause de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ceci explique un peu son notoriété.
Au XVIIIe siècle, nous avons choisi d'étudier Sophie Germain. Elle était passionnée par les mathématiciennes. Les mathématiques ne peut entrer à l'école polytechnique. Elle utilise le pseudonyme de Louis-Auguste Leblanc comme ruse pour rencontrer Joseph Lagrange et correspondre avec Gauss. Lorsqu'elle est démasquée, la communauté mathématicienne ne peut que reconnaître son génie. Elle travaille sur les vibrations, sur la théorie des nombres, la formule, la théorie de l'élasticité et participe à l'histoire de la démonstration du théorème de Fermat. Désormais, les femmes peuvent être mathématiciennes.
Nous avons parlé également de Maria Agnesi, née à Milan le 16 mai 1718. Maria Agnesi est la fille d'un riche marchand qui a fait fortune dans le commerce de soie. Elle a vécu et grandi en Italie, dans la ville de Bologne. En 1748, à l'âge de 30 ans, elle publie un ouvrage en deux énormes volumes d'algèbre et d'analyse remarquablement bien détaillés qui contient des développements sur des domaines mathématiques nouveaux. En France, l'Académie des sciences déclare n'avoir connaissance d'aucun ouvrage de ce type qui soit plus clair, plus méthodique, plus complet et commande la traduction du second volume. Le pape Benoît XIV, lui aussi très impressionné, nomme Maria Agnesi professeure de mathématiques à l'Université de Bologne en 1750.
Au XIXe siècle, nous avons parlé de Sofia Kavalevskaya, première femme à obtenir un doctorat de mathématiques. Elle écrit la rotation d'un corps asymétrique autour d'un point fixe, la toupie de Kovalevskaya. Elle prolonge les travaux du mathématicien Auguste Cauchy sur les équations différentielles. Ses compétences sont reconnues également à celles du mathématicien par l'Université de Stockholm, qui lui offre le premier poste de femme professeuse en Suède.
Fin du XIXe et début du XXe siècle, nous avons parlé d'Emmy Noether, qui a autant de génie et de courage que celles qui l'ont précédée. Ses travaux mathématiques des symétries naturelles sont capitaux pour la physique. En tant que femme, Emmy subit de nombreuses critiques désagréables sur son apparence, son génie mathématique ne faisant aucun doute. Sa candidature au titre de private docent de l'université de Göttingen souleva une forte opposition. Une femme professeure, c'est impensable. Hilibert s'adressa alors à l'Assemblée. « Messieurs, je ne vois pas en quoi le sexe d'un candidat est un argument contre son admission. Après tout, l'université n'est pas un établissement de bain. Cependant, l'habilitation ne fut pas accordée. Hilibert contourna la difficulté en annonçant une série de cours sous le nom de professeur Hilibert qui furent assurés par Fräulein Noether. »
De nos jours, la place des mathématiques semble être acquise. La médaille Fields, équivalent au prix Nobel en mathématiques, a enfin été attribuée à une femme en 2014, à Myriam Mirzakhani, née le 5 mai 1977 à Téhéran, qui est une mathématicienne iranienne, connue pour ses travaux en topologie et en géométrie. Elle fut élève de Giulio Curie de Téhéran, un lycée pour jeunes filles surdouées. Elle obtient un BSc en mathématiques en 1999 de l'Université de technologie à Sharif à Téhéran et un doctorat en mathématiques de Harvard en 2004. Sous la direction de Curtis McMullen, détenteur d'une médaille Fields. Elle obtient de nombreux prix de distinction dans la médaille Fields en 2014. Malheureusement, elle décède très jeune en 2017 à l'âge de 40 ans. Nous profitons de cette intervention à la radio pour lui rendre hommage.
Alors au final, qu'avons-nous constaté ? À l'Antiquité, les conditions d'Hypatie étaient plutôt modernes. Elle pouvait enseigner, faire des mathématiques sans qu'on lui empêche. Puis, on a vu qu'après, faire des mathématiques pour une femme devenait difficile. Avec Sophie Germain qui a dû prendre un pseudonyme ou Émilie Neuser qui enseigna sous le nom d'un collègue masculin pour contourner les problèmes.
Il y a environ 100 000 mathématiciens et mathématiciennes à travers le monde, dont 6 000 en France. Cependant, même si de nos jours l'égalité homme-femme semble être acquise, il n'en demeure pas moins que les femmes mathématiciennes restent de nos jours toujours moins nombreuses que les hommes. À l'université en maths, il y a moins de 20% de femmes en poste.